Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bonjour, bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de Mélomanie pour ce nouveau numéro de votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Le sommaire de cette émission est plutôt copieux et assez varié, comme vous allez pouvoir le constater, avec de la musique baroque, du piano seul, de la musique symphonique, de la musique sacrée et de la mandoline. Je ne crois pas exagérer en disant qu'il va y en avoir pour tous les goûts. Chaque semaine ou presque, nous recevons un invité d'honneur dans cette émission. Aujourd'hui, il s'agit d'un jeune et talentueux compositeur toulousain. Il s'appelle Corentin Apparelli et il vient nous présenter le CD La cinquième saison, paru récemment sous le label Mirare. La cinquième saison, c'est aussi le titre de l'œuvre qu'il a composée pour le mandoliniste Julien Martineau et l'orchestre Victor Hugo Franche-Comté, dirigé par Jean-François Verdier. Il y a d'autres pièces sur ce disque. Corentin va nous les présenter également en seconde partie d'émission. Et puis, toujours fidèle au poste, pour co-animer Mélomanie à mes côtés, Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Sans plus attendre, nous allons revenir maintenant sur l'actualité musicale de la semaine dernière. Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Bienvenue aussi à tous les deux, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est avec un récital de piano que nous ouvrons ce retour arrière, celui qu'a donné le pianiste Andras Schiff à la Halle au Grain, mardi 3 février. Un concert à l'invitation du cycle des grands interprètes. Il n'avait pas dévoilé au préalable le programme qu'il allait donner ce soir-là. Ce fut donc la surprise pour tous les spectateurs présents, dont Serge Chauzy. Alors Serge, quelle pièce et quel compositeur Sir Andras a-t-il joué à la Halle le 3 février, devant une salle bien remplie, mais hélas un peu trop bruyante et dissipée à son goût?
Exactement. Donc il s'agit d'un grand concert que j'ai qualifié d'inachevé. En quelque sorte, on va voir pourquoi. C'est un grand pianiste, vraiment. Il a présenté avec beaucoup d'humour et d'intelligence ce programme qui comprenait des œuvres de Bach, Haydn, Mozart et Beethoven. D'abord, il a commencé par un grand classique, l'aria des variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach, dont il a expliqué qu'il le joue tous les matins avant son petit déjeuner.
Pour se mettre en appétit, sans doute.
Oui, ça doit être ça, pour être de bonne humeur pour toute la journée. Et donc, il l'a joué avec vraiment un détachement, une finesse, une légèreté même, on peut dire. Il lui a fait succéder la suite française numéro 5, très variée, très contrastée, grande finesse de jeu, avec cette succession de danses dans la suite française, qu'il a d'ailleurs caractérisée auparavant en expliquant ce qu'elle représentait. Et puis ensuite, il est passé à Joseph Haydn avec sa première sonate, et donc avec une vitalité, un humour même, et quelquefois du drame. Donc vraiment, c'est un grand musicien qui sait contraster les expressions. Ensuite, là, c'était le rondo numéro 3 en la mineur, un véritable chef-d'œuvre, le Köchel 511 de Mozart, d'une émotion intense, avec une tristesse qui cache en quelque sorte, d'après la manière dont il l'a interprété, une sorte de tragédie sous-jacente. Ça a été vraiment un très beau moment. Et puis, il est revenu à Bach pour terminer cette première partie. Il a joué le concerto italien en fa majeur. Bon, démonstration lumineuse de virtuosité, d'intelligence là aussi, avec tout de même un caractère méditatif pour l'andante centrale de ce concerto. Ensuite, alors, il a expliqué que, je ne sais pas pourquoi, mais il a dit « Chopin considérait Bach et Mozart comme les plus grands compositeurs de l'histoire » et il a rajouté « Chopin avait bon goût ». Et effectivement, on ne peut pas lui dénier cela. Alors, il est revenu après l'entracte et puis toute la seconde partie a été consacrée à Beethoven, à deux de ses plus célèbres sonates pour piano, avec d'abord les quatre mouvements contrastés de la numéro 15 en ré majeur, dite pastorale. Et là il l'a révélé en quelque sorte avec une profondeur expressive vraiment impressionnante. Une sonorité, mais vraiment d'une prodigieuse richesse. Son piano était une palette de couleurs incroyable. Et donc, ça a été la première des sonates. La deuxième, la sonate numéro 17, en ré mineur, c'était La Tempête, qui serait inspirée de la pièce éponyme de Shakespeare. C'est une œuvre vraiment particulièrement représentative de cette période dite de tempête intérieure de Beethoven, pleine d'angoisse et de doute, puisqu'il faut se souvenir que sa surdité devenait vraiment importante. Et donc, bon, cette angoisse est passée dans l'œuvre. Alors, Andras Schiff n'a rien masqué de la violence de l'écriture qui se manifeste. Hélas, l'interprète n'est pas parvenu au bout de sa proposition. Il a été vraiment gêné par certains bruits qui émanaient de la salle. Et je dois dire qu'il y avait un petit festival. Il y a eu plusieurs portables qui se sont déclenchés, donc ils n'avaient pas été arrêtés. Puis il y a eu des chutes de, je ne sais pas, de cannes ou de portables encore. Donc il a arrêté l'exécution du dernier mouvement.
Si on lui vole la vedette, on peut le comprendre.
Ben oui, oui, oui. Donc il a arrêté en disant que ce n'était pas très gentil, pas pour lui, mais pour Beethoven. Il est revenu dans les coulisses, il a été rappelé. Vraiment, il a eu un tonnerre d'applaudissements pour le faire revenir. Et il a accepté un bis, mais qu'il n'a joué qu'en esquisse, puisque c'était une mazurka de Chopin. Et pendant qu'il jouait cette mazurka, il y a eu une chute vraisemblablement d'une personne qui est tombée dans un escalier, qui a fait un bruit épouvantable. Et là, il n'a pas pu résister, il a vraiment arrêté pour de bon son récital, ce qui est vraiment dommage. C'était sa troisième venue à Toulouse. Au début, il avait dit « j'espère qu'il y en aura une quatrième ». Alors, je ne sais pas s'il y en aura vraiment une quatrième, mais souhaitons-le.
Il a
vraiment
72 ans, donc il va encore très bien.
Ah oui, oui, il va très bien, il joue magnifiquement. Donc, souhaitons qu'il revienne encore.
Espérons que Andras Schiff oubliera vite l'exaspération que lui a causé le comportement d'une partie du public à la Halle aux Grains le 3 février.
Une petite partie du
voilà,
public.
Nous aurons l'occasion de réentendre à Toulouse ce merveilleux pianiste. Nous allons pouvoir le réentendre dans cette émission grâce à cette interprétation de la sonate pour piano numéro 17, La Tempête de Beethoven. Il joue ici le troisième mouvement, Allegretto. Le troisième mouvement Allegretto de la sonate pour piano numéro 17, La Tempête de Beethoven, interprété par Sir Andras Schiff. C'était la dernière œuvre au programme de son récital du 3 février à la Halle aux Grains, une soirée du cycle des grands interprètes dont le prochain rendez-vous est prévu samedi 21 février. Toujours à la Halle au Grain, où un autre très grand pianiste, le russe Daniil Trifonov, va se produire à 20h. Le mardi 3 février, il y avait un autre concert à Toulouse, à Saint-Pierre-des-Cuisines, proposé par la saison des Arts Renaissants, la grande musique baroque qui était à l'honneur, avec un ensemble que l'on a entendu à plusieurs reprises dans la Ville Rose, Café Zimmermann, une formation fondée il y a plus d'un quart de siècle par le violoniste argentin Pablo Valetti et la claveciniste Céline Frisch, devenue depuis une référence parmi les ensembles français jouant sur instruments d'époque. J'ai dit ensemble français parce qu'il est en résidence à Aix-en-Provence, mais vous aurez noté que Pablo Valetti est argentin, et j'ai découvert mardi dernier que les flûtistes, celui qui jouait du traverso et celui qui jouait de la flûte à bec, étaient tchèques et allemands. Cette formation compte aussi des musiciens espagnols et hongrois dans ses rangs. Elle est donc tout à fait internationale en ce qui concerne sa composition. En revanche, à Saint-Pierre-des-Cuisines, le programme qu'elle a joué était exclusivement baroque allemand. Il était sous-titré « Une soirée au café de Monsieur Zimmermann » parce que constitué d'œuvres des deux compositeurs qui ont rendu cet établissement célèbre à Leipzig durant la première moitié du XVIIIe siècle. Songez que chaque semaine, entre 1729 et 1739, le Collegium Musicum, l'ensemble fondé par Telemann et dirigé par un certain Jean-Sébastien Bach, donnait un concert dans ce café qui appartenait à Gottfried Zimmermann. Le programme du concert du 3 février proposait donc des œuvres de Telemann et Bach, avec, en ce qui concerne le premier, son double concerto pour flûte à bec et traverso en mi mineur et son concerto pour flûte, violon et violoncelle en la majeure. Pour rendre hommage à Bach, il y avait son concerto pour violon en la mineur, ainsi que les 4e et 5e concertos brandebourgeois. Très joli programme qui a commencé par le concerto pour flûte, violon et violoncelle en la majeure de Telemann, dans lequel j'avoue avoir trouvé le flûtiste un peu en dedans. Heureusement, il s'est libéré par la suite, et je crois que ça a été en grande partie grâce au fait qu'il a été galvanisé par l'énergie communicative du flûtiste à bec qu'il a rejoint pour le double concerto pour flûte à bec et traverso du même Telemann. Les œuvres de Bach ont été très joliment jouées ensuite et ce fut globalement un beau concert, fort apprécié par le nombreux public présent mardi à Saint-Pierre-des-Cuisines. Je vous propose de réécouter l'ensemble Café Zimmermann dans le premier mouvement Allegro Moderato du concerto pour violon en la mineur de Jean-Sébastien Bach. Thank you. Le premier mouvement Allegro moderato du superbe concerto pour violon en la mineure de Jean-Sébastien Bach dans une version enregistrée par l'ensemble Café Zimmermann. Le prochain concert des Arts Renaissants a lieu le mardi 31 mars à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines. Il est donné par le trio que forment les pianistes Constant Després et Rolando Luna avec le mandoliniste Julien Martineau, dont nous allons parler dans quelques minutes. Le dernier concert sur lequel nous allons revenir est celui qu'a donné l'Orchestre National du Capitole samedi à la Halle aux Grains. Il était dirigé par une vieille connaissance, le chef catalan Josep Pons. Il y avait une autre catalane présente lors de cette soirée, la soprano perpignanaise Laurane Oliva. Et puis nous avons eu le plaisir d'entendre un autre habitué de la Halle aux Grains et depuis plus de 40 ans, le chœur basque espagnol Orfeón Donostiarra. Tout était en place pour cette belle soirée dédiée à la musique sacrée de Francis Poulenc. Et on n'a pas été déçus, Serge, avec un magnifique Gloria et un très beau Stabat Mater.
Absolument, deux grandes œuvres de celui que Claude Rostand qualifiait de moine et voyou. Là, nous avions droit au moine, mais avec quelques petites virgules.
Ça reste du Poulenc.
Pendant les œuvres, oui. Ça reste du Poulenc. Oui, on voit que bon, il continue à être très original. Nous avons d'abord entendu le Gloria et ensuite le Stabat Mater, la partition la plus brillante, hein, donc. Qu'on peut considérer un peu comme une symphonie chorale. Le Gloria ouvrait la soirée avec une direction de Josep Pons vraiment d'une vigueur impressionnante, avec un équilibre parfait entre le chœur et l'orchestre. On sait qu'il y a des liens très forts qui se sont tissés entre le chef et l'orchestre.
Oui, de longue date.
De longue date. On peut constater, on l'a constaté tout au long du concert, comme les musiciens l'aiment et lui aime les musiciens.
Une grande complicité.
C'est vraiment, vraiment impressionnant. Et donc, nous avons eu droit à ce magnifique Gloria avec vitalité, mais aussi douceur, détente, et donc avec ces quelques petites virgules instrumentales qui viennent rappeler le côté voyou de Francis Poulenc. Et puis nous avons eu droit aux interventions de la soprano, en fait qui est franco-catalane, hein, oui. Qui a vraiment explosé en quelque sorte en finesse, en beauté, en douceur. Elle a un timbre qu'on peut qualifier d'angélique.
Oui, très joli.
Qui très va joli, très bien. Très bien avec le caractère de l'œuvre. Et donc c'était d'une beauté, d'une finesse tout à fait touchante. En deuxième partie de concert, nous avons pu écouter le Stabat Mater, une œuvre d'un tout autre caractère que le Gloria, avec le premier volet de l'œuvre, le fameux Stabat Mater Dolorosa, qui donne vraiment le ton du recueillement de la tristesse, qui démarre du silence. C'est vraiment très émouvant. Et le chef a fait respecter par l'orchestre les nuances les plus extrêmes, on peut dire du murmure au cri, de la douceur à la révolte même. Et donc, on a pu admirer les performances du chœur, en particulier les quelques passages a cappella qu'il y a dans ce Stabat Mater, avec les voix qui conservent, évidemment, ça c'est le plus difficile, une parfaite justesse et un équilibre sonore qui est souhaité, et dans tous les différents registres. Donc, bravo à Donostiarra, c'est vraiment un magnifique chœur. Et de nouveau, la voix soliste s'est manifestée là, avec une beauté de timbre, un art du chant pour Laurane Oliva, que l'on espère revoir à Toulouse un jour. Qui sait, peut-être sur la scène du Théâtre du Capitole.
Vous aurez remarqué que dans la salle était présent Christophe Gresti, le directeur artistique de l'Opéra National du Capitole. Certes, il était venu pour entendre les œuvres de Poulenc, bien sûr,
oui,
mais
bien
aussi
sûr.
Pour écouter Laurane Oliva en live. Pour conclure cette première partie d'émission et ce retour sur le concert de l'Orchestre National du Capitole samedi dernier à la Halle aux Grains, nous allons écouter le majestueux premier chœur du Gloria de Francis Poulenc. Gloria in Excelsis Deo dans une version enregistrée par le Boston Symphonic Orchestra dirigé par Seiji Ozawa.
Thank you.
Gloria in Excelsis Deo, chœur d'ouverture du Gloria de Francis Poulenc, enregistré par le Boston Symphonic Orchestra, dirigé par Seiji Ozawa. Prochain concert de l'Orchestre du Capitole, jeudi 12 février. On vous en reparle tout à l'heure, un peu plus tard dans cette émission. Fin de ce retour arrière, petite virgule musicale avant l'agenda de Mélomanie dans quelques secondes. Toujours avec Serge Chosy et avec notre invité du jour, Corentin Parailly. A tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
L'invité d'honneur de cette émission est donc le jeune compositeur toulousain Corentin Parailly, que nous avions déjà reçu l'an passé pour la création d'une de ses œuvres précédentes avec l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Aujourd'hui, c'est pour votre concerto, la cinquième saison. Il a été enregistré par le mandoliniste Julien Martineau et l'orchestre Victor Hugo Franche-Comté, dirigé par Jean-François Verdier, encore un ancien de l'Orchestre National du Capitole où il était clarinettiste il y a maintenant pas mal d'années. Sur ce CD paru sous le label Mirare, il y a deux autres œuvres que nous allons aussi évoquer avec vous. Je rappelle que vous êtes un ancien élève du Conservatoire à rayonnement régional de Toulouse. Après, vous êtes allé au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Vous êtes également altiste. Racontez-nous d'abord la petite histoire de cette pièce et de cet enregistrement. À la base, c'est une commande de Julien Martineau.
Oui, exactement. Merci de me recevoir déjà. C'est vrai que c'est un peu Toulouse en force, ce disque, parce qu'il y a beaucoup de Toulousains aux manettes. Mais en fait, ça vient d'une commande de Julien. Donc, on avait fait une première création ensemble en 2019, où j'avais composé une pièce pour mandoline et piano pour son disque avec Vanessa Benelli-Mozel. Et ça s'était très bien passé. On s'était très bien entendu. Et du coup, un peu plus tard, quand il a été question de rempiler pour un projet un petit peu plus ambitieux, eh ben on s'est dit attaquons un concerto, parce que moi j'en avais encore jamais composé, Julien n'en avait encore jamais commandé, le répertoire manque un petit peu de pièces d'ampleur, donc c'était l'occasion de retravailler ensemble. Voilà.
Donc on va préciser que la création avait eu lieu il y a un peu plus d'un an.
Oui, exactement.
Et l'enregistrement, lui, il y a quelques mois.
Oui.
Le CD est paru le 23 janvier, donc c'est tout récent. Alors vous le disiez, le répertoire pour mandoline, vu de l'extérieur, paraît plutôt restreint. Alors, je ne sais pas si Julien Martineau nous dirait la même chose, mais est-ce que pour un compositeur comme vous, c'est une motivation supplémentaire d'apporter votre pierre dans ce répertoire? Et est-ce que c'est un instrument qui vous inspire personnellement?
Oui, complètement. En fait, c'est vrai que ce n'était pas vraiment planifié, mais Julien, donc la pièce avec Vanessa, était ma toute première commande. Donc j'ai commencé avec un instrument un peu original. Ensuite, j'ai fait une pièce pour accordéon, donc ça a commencé vraiment avec des instruments justement qui n'ont pas vraiment de grand répertoire, mais qui sont en train depuis plusieurs années de vraiment construire quelque chose, et c'est très très intéressant pour un compositeur, forcément, parce qu'il y a tout à explorer. Et l'idée là de Julien, c'était quand il est venu me voir, il m'a dit en fait on a des concertos baroques, de Vivaldi surtout, on a quelques pièces un petit peu contemporaines, mais il y a vraiment un grand trou dans le répertoire, notamment à la période romantique, parce que je pense, comme les orchestres s'amplifiaient en son et en musicien, la mandoline peinait un petit peu à rivaliser en termes de son avec les orchestres qui devenaient de plus en plus copieux. Donc elle a été un petit peu reléguée au second plan, on l'a trouvée un peu dans des opéras, etc. Mais c'est vrai qu'elle a un petit peu disparu. Et maintenant qu'il y a la technologie, parce que Julien, il peut faire aussi des concerts où il est un tout petit peu amplifié,
oui,
avec un son quand même très naturel, mais qui permet de
rivaliser avec l'orchestre.
Exactement. Donc ça donne beaucoup de possibilités, et pour un compositeur, c'est génial, parce que du coup, on va aller faire des choses qui sont vraiment inédites.
Ah, vous le disiez, vous connaissez Julien Martineau depuis maintenant quelques années. J'imagine que c'est plus facile aussi pour vous de composer pour un musicien dont vous connaissez le son, la sonorité et puis les capacités.
Oui, j'ai découvert ça.
Vous savez ce qu'il est capable de faire.
Exactement. Ça, j'ai découvert avec Julien, parce que c'est la première fois que je compose une deuxième pièce pour quelqu'un. Et c'est génial parce que du coup, forcément, sur une première composition de 5 minutes, on n'a pas le temps d'explorer tout ce qu'on voudrait explorer. Puis l'amitié faisant aussi, on découvre plein de choses, etc. Donc ça nous a donné envie de retravailler ensemble sur un format vraiment long, parce que c'est une pièce là qui dure 35 minutes. Donc il y a 3 mouvements de 12 minutes. C'est vraiment une grande épopée fantastique, qui est d'ailleurs un peu plus une symphonie concertante qu'un concerto, parce qu'il y a aussi beaucoup de solos dans tous les musiciens de l'orchestre, etc. L'idée, c'était vraiment de faire une grande aventure.
Tous les pupilles.
Voilà, et de faire une aventure épique. Et puis, pour moi, c'est justement des instruments où les mettre purement en premier plan, virtuose, pendant 30 minutes, ça n'a pas vraiment de sens, parce que l'instrument, on sent quand même qu'il n'est pas fait pour ça. Mais du coup, d'aller le faire dialoguer, de le mettre en valeur à des moments, puis le faire disparaître, etc., c'est pour moi beaucoup plus intéressant. Et voilà, il y avait cette idée de faire vraiment une grande épopée fantastique, un peu à la manière d'un Roald en Italie, vous voyez.
Il y a un côté ludique, pour vous en tout cas, et sans doute aussi pour les musiciens. Mais alors, le titre maintenant, la cinquième saison, Pourquoi ce titre? Quelle a été votre inspiration pour cette œuvre?
Moi, j'aime bien les titres qui ont plusieurs strates. Donc, il y a plusieurs couches. La première, c'est évidemment le petit clin d'œil à Vivaldi. Parce que quand on parle de saison en musique, on pense
tout de suite à
Vivaldi. Et c'était un souhait de Julien, en fait, quand il m'a demandé de composer. Il m'a dit, si jamais on pouvait, d'une manière ou d'une autre, retrouver un peu l'ADN de Vivaldi, ce serait chouette pour faire un vrai lien avec le disque. Et puis aussi avec le fondateur un peu du répertoire de la mandoline, qui était Vivaldi. Et du coup, j'ai mis des petites citations de plusieurs concertos de Vivaldi pour mandoline à l'intérieur du concerto, notamment surtout le début du deuxième mouvement qui est assez explicite, qui reprend le concerto pour deux mandolines avec la même instrumentation avec des pids et puis des arpèges de mandoline. Sinon, après, toutes les autres petites évocations sont un peu cachées, donc c'est plus une petite sous-couche. Mais il y avait aussi d'autres idées là-dedans. C'était aussi l'idée de... vous savez, on représente souvent le cycle de la vie un peu par les quatre saisons depuis très longtemps. Et l'idée de, comme ça, imaginer une cinquième saison qui serait un espèce d'au-delà ou d'après, une vraie symbiose avec la nature, ça me parlait beaucoup. Et aussi, pour finir, la troisième petite chose que j'aimais bien dans ce titre, c'était que forcément, on a l'habitude du cycle des quatre saisons. En ajouter une cinquième, tout de suite, ça projette vers quelque chose d'un peu mystérieux et inédit, tout en étant la continuité du cycle qu'on connaît bien. Et j'aimais bien ça comme métaphore un peu de la musique contemporaine, où ma vision est un peu celle-là, c'est-à-dire de projeter quelque chose de moderne et d'inattendu, tout en étant quand même très ancré dans le répertoire et dans la tradition. On va l'entendre dans les extraits, il y a beaucoup d'inspiration du grand répertoire. J'aime bien faire un concerto, trois mouvements, des structures classiques, etc. Moi, j'aime bien vraiment m'inspirer de choses qui ont fait leur preuve.
Alors effectivement, il y a trois mouvements avec des titres très poétiques. Hein. Trois mouvements, mais 11 morceaux en tout qui composent cette œuvre. Donc première partie, je ne sais pas si vous parlez de mouvement d'ailleurs. Première partie, c'est le secret des feuilles. La deuxième, c'est la source. La troisième, c'est Feu de joie. Et à l'intérieur, il y a d'autres petits mouvements. L'arbre légende, suivre les feux follets, l'esprit de la forêt, la rivière des soupirs, au cœur du sanctuaire, le festin des héros, oraison funèbre. Voilà, ça s'assombrit un peu. Le grand brasier et ascension aux étoiles. Les titres, c'est vous qui les avez
trouvés? Oui, complètement, complètement. Alors au début, c'est une volonté. Moi, j'avais prévu que trois mouvements. Et la volonté, modernité oblige pour le streaming, tout ça, de découper en beaucoup plus de parties plutôt que faire des gros tronçons de 12 minutes. Après, moi, c'est des annotations aussi que j'avais mis sur la partition parfois pour vraiment chapitrer un peu l'intérieur des mouvements. Et du coup, ça a été l'occasion de les officialiser, on va dire. Mais j'aime bien, moi, tout ce qui est très poétique dans les partitions. Ou plutôt que mettre allegro moderato ou des indications purement techniques, aller chercher un peu de poésie parce que ça, souvent, ça inspire les musiciens pendant qu'ils jouent et ça aide à l'interprétation, forcément.
Mais c'est un peu schumannien, hein, la manière de ces sous-titres.
Effectivement.
Hein. C'est incroyable.
Oui. Hein. C'est vrai. En musique française aussi, il y a
une
tradition.
Ça renvoie un peu au conte germanique, au conte d'Hoffmann, aux légendes scandinaves, germaniques.
Oui, exactement.
On imagine des lutins, bon voilà, il y a des feux follets.
C'est ça, l'instrument de la mandoline, vraiment, ça évoque un peu les troubadours, on la met dans le dos et puis on parcourt le pays à cheval, etc. Donc il y avait cette idée de vraie aventure un peu épique, un peu à la Seigneur des Anneaux, les choses un peu très archétypales comme ça.
Il y a côté espièglerie aussi, je trouve.
Oui.
Un peu dans la mandoline, qui va bien à Julien Martineau d'ailleurs, et même à vous d'ailleurs, Corentin. Nous allons écouter un premier extrait de votre concerto, la cinquième saison, et donc de ce CD enregistré par Julien Martineau et l'orchestre Victor Hugo Franche-Comté sous la direction de Jean-François Verdier. C'est le morceau intitulé « Suivre les feux follets » intégré à la première partie « Le secret des feuilles ». Thank you. Suivre les feux follets, extrait de la première partie, Le secret des feuilles, dans votre concerto, la cinquième saison, enregistré, je le rappelle encore, par Julien Martineau et l'orchestre Victor Hugo Franche-Comté sous la direction de Jean-François Verdier. Comment avez-vous travaillé avec Julien Martineau pour la composition? Est-ce que vous lui avez envoyé des idées, des ébauches de partitions et il vous faisait un retour critique, ou vous lui avez présenté l'œuvre complète une fois que vous l'aviez terminée?
Moi, j'aime pas trop faire des allers-retours parce qu'on peut vite se perdre, et
ouais.
Surtout quand on n'a pas... Le soliste n'a pas forcément la vision intégrale de ce que ce sera, donc si on envoie des bouts, mais qu'il a du mal à se projeter, ça peut être compliqué. Donc moi, j'aime bien tout composer. Par contre, des fois, quand j'avais des petits doutes sur la jouabilité de quelque chose, je lui envoyais un petit extrait en lui demandant, etc. Donc là, il me faisait des petits retours. Mais sinon, je compose tout, ensuite j'envoie. Et ensuite, on a retravaillé uniquement la partie de mandoline, donc en regardant si les accords, il n'y avait pas des choses qui sonnent un petit peu mieux à la mandoline ou qui peuvent se simplifier, etc. Donc il y a eu par contre pas mal d'allers-retours avec Julien pour aboutir à la version que vous avez entendue.
Donc vous lui envoyez la sculpture terminée et il y a des petits coups de burin,
exactement,
des petites retouches pour lui donner sa forme définitive. Moi, j'aime bien l'image. Et avec l'orchestre ou avec Jean-François Verdier, il y a eu aussi des échanges comme ça, où lui aussi, il a eu la partition validée par Julien et par vous et...
Pour le coup, là, il a vraiment eu la version finale tout de suite.
Donc Jean-François Verdier, qui a été membre de l'Orchestre National du Capitole,
oui.
Vous l'avez connu, hein, Serge.
Absolument. Oui,
votre
oui.
Père, Gilles Appareilly, l'a oui. eu, je crois, comme camarade à l'orchestre.
Oui.
Hein. Voici un deuxième extrait de la cinquième saison, toujours avec Julien Martineau à la mandoline et l'orchestre Victor Hugo Franche-Comté, dirigé par Jean-François Verdier. Il a pour titre Au cœur du sanctuaire et il est tiré de la deuxième partie intitulée La source. Au cœur du sanctuaire, morceau extrait de la deuxième partie, La source, dans votre concerto, la cinquième saison. En l'écoutant, on en parlait entre nous, là, on parlait de l'extrême variété des ambiances et des sonorités dans cette pièce et dans l'œuvre générale. Et je me disais aussi que ça n'a pas dû être évident pour l'orchestre et celui qui le dirige de trouver le juste équilibre de volume avec la mandoline. Comment vous avez intégré cette contrainte dans la composition?
Du coup, ça se fait vraiment sur l'orchestration. Il y a des moments où l'orchestre est assez fourni quand même, parce que c'est un orchestre Mozart, donc avec les bois par deux, mais un tout petit peu amplifié avec un petit peu plus de cordes, et surtout, je me suis un peu éclaté sur les percus. Donc il y a trois percussionnistes, et on est allé chercher des bâtons de pluie, des machines à vent, enfin il y a beaucoup d'instruments un petit peu originaux comme ça. L'équilibre se trouve vraiment à l'orchestration d'abord, et ensuite forcément à l'interprétation sur le jour de l'enregistrement, avec le chef qui doit
gérer ça. C'est vrai que le chef a tout son rôle.
Complètement, ah oui, oui, si... si le chef fait pas attention.
Pour les gens qui demandent à quoi ça sert un chef.
Ouais, il ne fait pas que battre la mesure, il permet aussi de trouver les équilibres, évidemment, le jour de...
Et après, aujourd'hui, il y a la sonorisation, comme vous le disiez, de la mandoline qui permet aussi...
Voilà, alors Julien, du coup, il fait une sonorisation, mais qui est très subtile parce qu'il veut garder vraiment le côté naturel. Et je suis allé l'écouter au Folle Journée, là, il y a quelques jours, et il a joué dans une salle de, je ne sais plus, 300 personnes, et j'ai cru qu'il n'était pas sonorisé, parce que c'était hyper naturel. Et il m'a dit non, j'avais mis l'ampli sous le piano, et il y avait une petite, un petit ajout, mais ça reste voilà, très léger, et très, ça permet juste de donner un peu plus de corps dans des grandes salles. Il a même fait, presque conçu l'appareil lui-même, enfin, il est très impliqué dans le...
Oui, ça ne m'étonne pas de sa part, ça. Troisième extrait de la cinquième saison, on retrouve Julien Martineau et l'orchestre Victor Hugo Franche-Comté sous la baguette de Jean-François Verdier. Il joue ici le grand brasier tiré de la troisième partie, Feu de joie. Grand brasier extrait de la troisième partie, c'est le final, hein, Feu de joie dans votre concerto, la cinquième saison, enregistré par Julien Martineau et l'orchestre Victor Hugo Franche-Comté, dirigé par Jean-François Verdier, sous le label Mirare. Et sur ce CD, il y a deux autres pièces pour mandoline et orchestre, l'une composée par un autre compositeur contemporain bien connu, Carole Beffa, et intitulée Blackstone. Et puis, il y a un concerto grosso de Vivaldi, le concerto pour divers instruments, RV 558. Mais transcrit par vos soins pour la mandoline. Ça aussi, c'est une demande, une commande de Julien Martineau.
Oui, exactement. En fait, c'est un concerto qui est presque jamais joué parce qu'il y a dans l'instrumentation beaucoup d'instruments d'époque qui ont disparu, qui sont les ancêtres en fait de tous les instruments qu'on a dans l'orchestre. Et il m'avait demandé du coup d'en faire une transcription ou un réarrangement, mais qui permette de remettre ce concerto au goût du jour pour qu'il puisse être joué, en fait. Donc là, c'est une orchestration corde de l'orchestre et clavecin, qui permet voilà, d'être autant joué comme ça que les autres concertos de Vivaldi.
Alors, comment vous avez procédé pour le transcrire pour la mandoline? Je crois qu'à l'origine, il y a une ou deux mandolines déjà dans le...
Oui, c'est ça. Il y a une mandoline solo et l'orchestre, en fait, l'accompagnement, mais avec des flûtes, des instruments d'époque. Et donc là, l'idée, c'était de remettre tout ça que aux cordes. C'était un peu un travail de quartettiste qui m'a bien plu. Et après, le clavecin, là-dessus, on avait défini un peu les endroits où il pourrait improviser, les endroits où c'était mieux qu'il y ait les cordes seules. Mais après, il a fait vraiment sa vie un peu dans la tradition baroque. On l'a laissé s'exprimer.
Eh bien, nous allons écouter un extrait de votre transcription pour mandoline du concerto pour divers instruments RV 558 de Vivaldi. C'est le premier mouvement, Allegro Molto, et il est joué bien sûr par Julien Martineau et l'orchestre Victor Hugo Franche-Comté sous la direction de Jean-François Verdier. Ça devrait dire quelque chose à nos auditeurs. Thank you. Le premier mouvement Allegro Molto du concerto pour divers instruments Hervé 558 de Vivaldi dans la transcription pour mandoline réalisée par Corentin Parailly est donc enregistré par Julien Martineau et l'orchestre Victor Hugo Franche-Comté sous la direction de Jean-François Verdier. Toutes ses œuvres sont à retrouver sur le CD La cinquième saison, paru récemment sous le label Mirare. Serge Chosy, il y a 3 concerts annoncés cette semaine. Et en premier, celui que donne l'Orchestre de Chambre de Toulouse ce jeudi 12 février à 20h30 à la salle L'Odyssée de Balma. Je rappelle au passage que Corentin Parailly est depuis l'an dernier le compositeur en résidence de l'Orchestre de Chambre de Toulouse et ce jusqu'en 2027. Pour ce concert du 12 février, l'Orchestre de Chambre se produit avec un autre jeune musicien toulousain, le pianiste Constant Després, dans un programme entièrement consacré à Mozart. Serge.
Absolument, c'est alors un pianiste que l'on a connu tout jeune. Et donc là, il sera le soliste du concerto numéro 12 en la majeure, le Köchel 414 de Mozart. Et puis il y aura également la symphonie numéro 38, sous-titrée Prague, et le divertimento en fa majeur, Köchel 138. Donc 3 œuvres de Mozart qui se succéderont donc avec la présence de Constant Després, que l'on est tout heureux de retrouver.
Dans cette jolie salle, l'Odyssée à Balma, qui a un grand plateau et une très bonne acoustique. Et puis également, jeudi 12 février, mais à 20h à la Lograin, concert de l'Orchestre National du Capitole sous la direction du jeune chef italien Michele Spotti, qu'on a eu le plaisir de voir diriger il y a peu, l'ensemble symphonique toulousain, mais dans la fosse de l'Opéra
Exactement.
National du Capitole. Quel est le programme de cette soirée, Serge?
Alors, je voudrais quand même rappeler qu'il a dirigé la Traviata en 2023, Idomeneo et la Cenerentola en 2024. Donc, c'est vraiment un habitué de la fosse du Théâtre National du Capitole.
Et il a été à chaque fois remarquable.
Absolument, absolument. Et là, alors, c'est un programme qui débute par une ouverture d'opéra, évidemment, celle de La Force du Destin de Verdi. Ensuite, il y aura le poème symphonique et la boutique fantasque de Respighi, dans laquelle Respighi a intégré des musiques de Rossini. Et puis, troisième œuvre, alors là, on ne la présente plus, c'est la symphonie fantastique d'Hector Berlioz, qui conclura ce concert en 3 étapes.
Un concert qui ne devrait pas manquer de souffle. Eh bien, voilà un programme et une soirée qui promettent. Nous allons écouter un extrait d'une des œuvres que vous allez entendre, le bal, la valse de la symphonie fantastique d'Hector Berlioz, dans une version enregistrée par l'Orchestre National du Capitole, placée ici sous la direction de Michel Plasson.
Thank you.
Le bal, la valse de la symphonie fantastique d'Hector Berlioz dans une version enregistrée par l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Michel Plasson. C'est donc l'une des trois œuvres au programme du concert que donne l'ensemble symphonique toulousain ce jeudi 12 février à 20h à la Halle aux Grains avec un autre Michel, Michele Spotti, à sa tête. Dernier rendez-vous à vous annoncer, il a lieu lundi prochain, le 16 février à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines. Et il est proposé par la saison des Clés de Saint-Pierre. Ce concert réunit 6 musiciens qui vont jouer 3 œuvres, Serge. Lesquelles ?
Voilà, alors d'abord les musiciens en question. Il y a Christy Jezzi, qui est le super soliste de l'orchestre, et Xu Yanying, qui est la deuxième violoniste, puis 2 altistes qui sont Juliette Gilles et Bruno Dubarry, et enfin Sarah Yansou et Pierre Gilles, les 2 violoncellistes. Donc ce sont des musiciens que l'on connaît bien,
solides, hein.
solides de l'orchestre, et donc qui vont jouer un programme de sextuor, évidemment, puisqu'ils sont 6. Programme intéressant avec tout d'abord de Richard Strauss, le sextuor qui sert de prélude à son dernier opéra Capriccio, opus 85. Donc, une œuvre magnifique. Hein. Et puis ensuite, de Richard Wagner, une version pour sextuor à cordes du prélude de Tristan et Isolde, version qui a été élaborée par Sébastien Gürtler. Et enfin, ce qui a donné le titre
de ce concert.
Au concert, La nuit transfigurée, opus 4, d'Arnold Schoenberg, qui est une des œuvres de jeunesse de Schoenberg, qui date de 1899, hein, donc avant qu'il devienne le maître d'œuvre de la seconde école de Vienne, qui passe à l'atonalisme et au dodécaphonisme. Donc là, c'est vraiment une œuvre post-romantique, on pourrait dire. Hein. 3 œuvres intéressantes pour ce concert. Donc,
avec 6 grands musiciens, vraiment.
Ah oui.
Vraiment.
Oui, absolument.
Voici un extrait d'une des 3 pièces au programme du concert des Clés de Saint-Pierre, le lundi 16 février à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines. C'est le mouvement Zer Ruhig de la nuit transfigurée d'Arnold Schoenberg. Zer Ruhig, extrait de La nuit transfigurée d'Arnold Schoenberg, l'une des 3 pièces au programme du concert des Clés de Saint-Pierre, lundi 16 février à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines. La billetterie est en ligne à l'adresse www.lesclésdesaintpierre.org pour le concert de l'Orchestre de Chambre de Toulouse avec le jeune pianiste Constant Després, jeudi 12 février à 20h30 à l'Odyssée de Balma. Le programme est entièrement dédié à Mozart et les places sont à acheter sur le site www.orchestredechambredetoulouse.fr. L'Orchestre National du Capitole est donc aussi en concert ce même jeudi 12 février, mais à 20h à la Halle aux Grains, sous la direction de Michele Spotti, avec un programme Verdi, Respighi, Berlioz. Réservation et achat des places sur le site www.onct.toulouse.fr. Je rappelle les 2 concerts que donne l'Orchestre Baroque Les Passions de Montauban, avec Jean-Marc Andrieux en soliste à la flûte à bec. Vendredi 13 février à Montauban, au temple de la faculté à 18h30. Et samedi 14 à Toulouse, également à 18h30 à l'église Saint-Exupère. deux événements pour fêter les 40 ans des Passions où vous allez entendre des concertos pour flûte à bec de Télémane et Sammartini. La billetterie est en ligne sur le site www.les-passions.fr. Et puis je rappelle enfin la parution récente sous le label Mirare du CD La 5e saison, enregistré par Julien Martineau et l'orchestre Victor Hugo Franche-Comté sous la direction de Jean-François Verdier, un disque auquel notre invité du jour, Corentin Parilly, a énormément contribué, en premier lieu en composant le concerto qui lui donne son nom. Merci beaucoup Corentin d'être venu nous le présenter. Merci également à Serge Chosy qui a une fois de plus animé cette émission avec moi et à Jonathan Botello qui l'a réalisé. Le podcast est téléchargeable dès maintenant, comme d'habitude, sur le site web de Radio Présence. Et merci bien sûr aux fidèles et aux nouveaux auditeurs de Mélomanie. Très bonne semaine musicale à tous.